Merci beaucoup pour ce temps d'adoration, pour ce temps aussi d'écoute de la parole de Dieu. Je vous invite à poursuivre dans l'écoute de celle-ci. Nous poursuivons nos méditations, nos prédications sur l'épître aux Éphésiens. Et ce matin, nous allons aborder le texte d'Éphésiens 5 à partir du verset 20. Jusqu'au chapitre 6, au verset 4, qui traite des relations au sein de la famille. Éphésiens chapitre 5, à partir du verset 20. Rendez toujours grâce pour tout à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte du Christ. Femmes, soyez soumises chacune à votre mari comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son propre corps, dont il est le Sauveur. Comme l'Église se soumet au Christ, que les femmes se soumettent en tout, chacune à son mari. Marie, aimez chacun votre femme comme le Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier après l'avoir purifiée par l'eau et la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et sans défaut. De même, les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Jamais personne, en effet, n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit, on en prend soin, comme le Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand, je dis cela par rapport à Christ, à l'Église, du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement accompagné d'une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, n'héritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant, en les avertissant toujours selon le Seigneur. Amen. Jusqu'ici, notre lecture. Voici ce genre de texte. Souvent, on prie pour qu'on ne tombe pas dessus pour la prédication, mais là, je ne l'avais pas choisi. Les circonstances ont fait que je puisse vous entretenir sur ce sujet. Jusqu'ici, l'apôtre Paul a présenté l'Église comme étant une nouvelle société. Une nouvelle société, une nouvelle humanité, que Dieu forme autour de son Fils Christ sur la base de l'œuvre de son Fils à la croix. Au sein de cette nouvelle communauté, l'Église, les relations sont nouvelles, sont fondées sur l'amour de Dieu et sur l'amour du prochain, et non sur la domination, non sur l'exploitation. Et même si cela peut arriver dans la cité, dans l'Église, ça ne devrait pas arriver. Et si ça arrivait, il faudrait changer cela. Dans notre passage, Paul indique donc la réalité de l'Église prend forme dans la réalité des familles qui la composent. Bien entendu, il ne faut pas exclure les célibataires, mais il zoome sur les relations de la famille, mais il parlera après des célibataires. Lui-même, lorsqu'il écrivait cette lettre, était célibataire, donc... Mais ici, il zoome sur les relations au sein de la famille. C'est pourquoi donc il prend le temps de donner quelques bases pour construire des relations familiales dignes de cette nouvelle humanité à laquelle nous appartenons, de cette nouvelle cité dont nous faisons partie. L'apôtre Paul ne se limite pas d'ailleurs à la famille. Il l'aborde par la suite dans les versets qui suivent, mais que nous n'avons pas lus, et il aborde les relations dans le cadre professionnel entre les responsables, les maîtres et les serviteurs chrétiens, entre les patrons et les employés chrétiens. mais je me limiterai à la famille. D'abord donc, Paul évoque les relations dans le couple, pour commencer. Il donne des instructions aussi bien à l'époux qu'à l'épouse. Il commence par l'épouse. Que demande-t-il à la femme ? « Femme, soumettez-vous à votre mari comme au Seigneur. » Voici une parole qui peut faire plaisir aux uns et qui peut scandaliser les autres. Ceux qui considèrent, pour une raison ou une autre, que leur épouse est là pour les servir, satisfaire leurs besoins, répondre à leurs attentes d'une manière presque inconditionnelle, connaissent ce texte par cœur. Dès que l'épouse ne fait pas vraiment ce qu'ils attendent, dès qu'elle ne dit pas oui, amen, à leur parfois fantasme, il cite cette parole de l'apôtre Paul, d'un seul coup il devient spirituel, il la sort pour inviter leur femme à être aussi spirituelle quand même. Par contre, ceux qui considèrent qu'il n'y a pas de différence entre hommes et femmes vont considérer ce texte d'un autre âge, un texte archaïque. On ne va pas encore écouter ce genre de paroles. Même parfois, certains sont révoltés sur cette parole, en lisant cette parole. Il faut dire en effet que ce verset a été, hélas, utilisé pour écraser bien des épouses. Il faut préciser d'emblée une chose qui va peut-être de soi, mais qui est utile à rappeler, vu le comportement observé parfois dans les églises. Je vous rassure que ce n'est pas ici, autrement je serais intervenu dans toute ma splendeur. Donc, il m'est arrivé de constater et de voir que parfois certains frères exigent de toutes les sœurs de l'église la soumission. Paul ne demande pas du tout aux sœurs de se soumettre à tous les frères, aux épouses de se soumettre à tous les frères. Il demande aux épouses de se soumettre à leur époux dans le cadre du couple. Par contre, si on veut comprendre la soumission des sœurs pour les frères, pourquoi pas ? Ça, c'est l'apôtre Paul qui nous le dit, mais dès le verset 21, « Soumettez-vous les uns aux autres », donc, de la même manière que les sœurs se soumettent aux frères, les frères doivent se soumettre aux sœurs. C'est la soumission mutuelle, et le verset 20 et 21 traite des relations dans le cadre communautaire. Et là, c'est la soumission mutuelle que l'apôtre Paul nous enseigne. À partir du verset 22, il rentre dans le cadre des relations conjugales. Comment comprendre maintenant cette parole de l'apôtre Paul pour les épouses chrétiennes ? Une fois que le cadre est précisé, comment le comprendre ? Pour comprendre cette parole de l'apôtre Paul, il me semble qu'il faut la placer dans la perspective de l'enseignement de Genèse 1 et 2. Et je bénis le Seigneur et encore dire un grand merci à Stéphane d'avoir choisi ce texte pour introduire notre culte, le texte que nous avons lu au début de notre culte. Je ne sais pas s'il avait fait exprès, mais autrement, le Seigneur a bien conduit les choses. La première chose qui ressort de ce texte de Genèse 1 et 2, dont le texte que nous avons lu en particulier, c'est le fait que la femme est un vis-à-vis de l'homme. La femme est un vis-à-vis de l'homme, nous l'avons lu, Genèse 2, verset 23. La notion de vis-à-vis implique un certain nombre de choses. Et la première chose, elle implique le fait que la femme, elle n'est ni supérieure ni inférieure à l'homme, mais elle est son égale devant Dieu le Créateur. De la même manière que Dieu a créé la femme, dont Dieu a créé la femme est vraiment remarquable. Il s'est servi, il a pris la côte de l'homme pour la créer. C'est cela, c'est pour cette raison que d'ailleurs le nom de la femme dans la langue originale en hébreu, c'est le féminin de homme, Isha. Donc la femme Isha, c'est le féminin de homme en hébreu. Donc nous avons affaire à la même nature devant le Seigneur. Un commentaire très vibrant de ce texte, je ne me prive pas de vous le lire, même si je l'ai eu, je crois, l'occasion de le lire une fois ou l'autre lors d'un mariage d'un membre de l'Église. Il remonte normalement à Saint-Augustin, mais apparemment la parenté est un peu discutée, donc je ne suis pas sûr de l'auteur, mais le commentaire est le suivant. Dieu, il dit, Dieu n'a pas fait la femme de la tête de l'homme pour qu'elle le domine, ni de ses pieds pour qu'il la piétine, mais de son côté pour qu'elle soit son égale, sous son bras pour qu'il la protège, près de son cœur pour qu'il la chérisse. Voilà une belle parole qui dit cette égalité, ce vis-à-vis entre hommes et femmes. En effet, le fait que la femme soit créée de la côte de l'homme montre bien que l'homme et la femme sont égaux en dignité devant le Seigneur. Il n'y a donc aucune supériorité à avoir dans le couple, ni infériorité d'ailleurs, parce que parfois c'est dans l'autre sens, ni infériorité dans la perspective biblique du moins des choses. La deuxième chose de la notion qu'implique la notion de vis-à-vis, c'est la différence. L'homme et la femme ne sont pas pareils, ils sont différents. Vouloir gommer cette différence, c'est comme vouloir gommer la différence qu'il y a entre la créature et le créateur. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, l'homosexualité est placée en parallèle avec l'idolâtrie. Parce qu'on gomme ce qui est fait là, on gomme la différenciation posée par le créateur lui-même dès le texte de la Genèse, dès le début. À partir du moment où on gomme la différenciation entre l'homme et la femme, c'est comme revenir à gommer la différence qu'il y a entre la créature et son créateur. Et c'est la raison pour laquelle elle est considérée comme de l'idolâtrie. Il y a une différence. Et ce serait un aveuglement total de dire qu'il n'y a aucune différence, ne serait-ce que sur le plan morphologique. Ne serait-ce que sur le plan morphologique. Mais les différences vont nettement plus loin. Donc l'homme et la femme, il y a une différence. Dieu les a voulus ainsi. Et il n'y a, s'il faut la recevoir en tant créateur, en tant créature, de notre créateur, il faut recevoir cette réalité telle qu'elle est, elle nous est offerte par notre créateur. L'homme et la femme ont des rôles différents à jouer dans le cadre du couple, là encore une fois de plus. Les trois premiers chapitres de la Genèse montrent en effet que Dieu a confié le rôle de l'autorité, de la direction à l'homme dans le cadre du couple. Je vais donner très brièvement quelques éléments à cela. Trois éléments. Le premier, c'est le fait que l'homme, lorsque Dieu s'est adressé à l'homme pour lui donner le commandement, le double commandement, tu mangeras et tu ne mangeras pas, il s'est adressé à l'homme. Lorsque la femme a pris du fruit défendu, Dieu ne s'est pas adressé à elle d'abord. Elle est venue voir l'homme pour lui demander des comptes, parce qu'il considère que c'est de sa responsabilité. Et enfin, le Nouveau Testament, lorsque l'apôtre Paul compare le représentant de l'ancienne humanité, adamique, à la nouvelle humanité en Jésus-Christ, il appelle Jésus le second Adam. Cela montre donc qu'il y a un rôle de représentativité qui est donné à l'homme, d'autorité, de direction. Et on a l'habitude de dire, dans notre conception, ou dans notre manière de comprendre les choses, que l'homme joue le rôle de direction, d'autorité, et que la femme joue le rôle de proximité et de compassion. Mais nous sommes dans des fonctions, nous sommes dans des rôles, nous sommes dans des services, si vous préférez. Dans la conception biblique, le mari reçoit une autorité de la part du Seigneur pour assumer de la meilleure façon possible sa responsabilité dans la direction du couple, dans la vie du couple. Mais ce rôle spécifique du Seigneur n'implique pas une supériorité de l'homme, loin de là. Il n'implique pas une supériorité vis-à-vis de sa femme. Je vais vous donner un exemple qui permet de comprendre cela. Prenons l'exemple d'un magistrat, un juge. Un juge, il a l'autorité de décider sur un prévenu dans une cour de justice. Il a l'autorité donc de décider. Mais cette autorité ne fait pas de juge, ne donne pas au juge un statut supérieur, il n'est pas supérieur au prévenu. L'autorité que le juge possède vis-à-vis du prévenu est une autorité fonctionnelle. C'est une autorité dans le service, dans le rôle, et non pas une autorité ontologique, c'est-à-dire ils n'ont pas quelque chose qui est de l'être, qui relève de l'être. Ce n'est pas parce qu'il est juge qu'il est en dehors de la cour, il y a des citoyens. En plus, il faut souligner que toute autorité, toute fonction, tout rôle, toute autorité qui nous est donnée aux êtres humains, elle est limitée, elle n'est pas absolue. Seul le Seigneur a l'autorité absolue. Un magistrat ne peut pas décider comme il veut. Il doit décider selon le cadre qui lui a été fixé par la loi. De la même manière, les parents n'ont pas le droit de vie et de mort sur leurs enfants. Ils doivent les élever selon le Seigneur. Et nous reviendrons tout à l'heure. Ainsi, l'autorité que le mari reçoit, aussi dans le cadre du couple, elle n'est pas sans limite, mais elle est cadrée, voire même conditionnée, par le fait de rester soumis au Seigneur. Il faut signaler que malheureusement, il arrive parfois que l'autorité soit utilisée d'une manière égoïste, d'une manière abusive et sans aucun souci de l'autre. Et cela crée beaucoup de malheurs, beaucoup de catastrophes et de désastres sur tous les plans, sur le plan politique, mais aussi au niveau du couple. Il y a parfois des abus des personnes en position d'autorité. Le couple, hélas, peut être aussi un lieu de divers abus, psychologiques, spirituels, parfois physiques, et malheureusement, les informations nous l'indiquent, et même parfois aussi sur le plan sexuel. Un bon exercice de l'autorité conjugale tient compte de l'autre, des attentes de ses attentes et de son besoin. Un bon exercice de l'autorité conjugale favorise l'intérêt du couple et de la famille, s'il y a des enfants. L'intérêt du couple, et non pas les intérêts personnels ou égoïstes, ni du mari, ni d'ailleurs de la femme. Ce n'est pas parce que c'est la femme qui a proposé. Si elle propose quelque chose qui n'est pas bon pour le couple, il faut avoir aussi la simplicité et l'honnêteté de dire non, ce n'est pas bon pour notre couple ou pour notre famille. Une fois que l'intérêt du couple est placé au centre, me semble-t-il, l'épouse n'aura pas trop de difficultés à accepter, à reconnaître cette autorité. Pourquoi ? Parce que derrière cette autorité, elle voit l'autorité du Seigneur lui-même qui agit à travers son mari, puisque son mari agit selon le Seigneur. Se soumettre au Seigneur est notre vocation à tous, notre vocation de chrétien. Nous ne pouvons donc pas être chrétiens et refuser de se soumettre au Seigneur. Nous ne pouvons pas avoir Jésus comme notre sauveur, mais pas comme notre Seigneur. Ça ne fonctionne pas. À partir du moment où il est notre sauveur, c'est vrai qu'on apprend à faire de lui notre Seigneur, mais c'est de la perspective. Le Seigneur Jésus lui-même s'est soumis à son Père. C'est cet exemple que l'apôtre Paul nous demande de suivre, demande aux chrétiens de suivre d'une manière générale et aux épouses ici d'une manière spécifique. Suivre l'exemple de Christ dans le domaine de la soumission n'a rien de dégradant. Dans le Nouveau Testament, la soumission n'a rien d'humiliant. La soumission qui vient du cœur est loin d'être contraignante. Cette soumission qui est volontaire, qui est joyeuse, c'est cette soumission que nous trouvons au cœur de l'exemple que Jésus-Christ nous a laissé dans sa soumission à l'égard de son Père. Le verbe « se soumettre », il est vrai, a une mauvaise connotation, surtout dans notre temps actuellement. Il est compris souvent dans un sens négatif parce qu'on l'associe toujours à un rapport de force. Une personne est soumise à une autre personne parce que celle-ci a réussi à lui tordre la main, enfin à lui tordre le bras et elle lui a imposé cette soumission. Dans le Nouveau Testament, il n'en est pas du tout ainsi. Dans le Nouveau Testament, nous sommes loin de ce cas de figure. Il est question d'une soumission volontaire, choisie, avec un objectif bien précis. Et là encore, l'exemple parfait, c'est notre Seigneur qui s'est soumis parfaitement à son Père. Mais cela n'implique pas du tout une infériorité. Jésus est pleinement Dieu. Tout comme le Père est pleinement Dieu. De la même manière que Christ s'est soumis à son Père, cela, de la même manière que nous sommes appelés à nous soumettre, que Paul appelle les sœurs, les épouses, pardon, à se soumettre dans le cadre de leur couple à leur mari, tant que celui-ci agit selon le Seigneur. L'épouse chrétienne est invitée à prendre sa place dans le cadre que Dieu a placé, et à accepter sa responsabilité à l'égard de son mari, auquel elle reconnaît justement ce rôle spécifique, non pas parce qu'il le mérite, mais parce que Dieu poser ainsi le cadre créationnel. Jésus est soumis au Père sans que cela implique aucune infériorité, sans que cela implique aucune domination, mais au contraire, il l'a fait joyeusement. Pour toutes ces raisons, ce que le Seigneur attend de l'épouse, ce n'est pas d'être docile comme un chat ou un chien au pied de son maître, il attend d'elle d'être un partenaire volontaire, joyeux, libre, reconnaissant au Seigneur pour ce cadre qu'il a placé. Car qui d'autre mieux placé que le Créateur pour dire à sa créature le cadre meilleur dans lequel elle peut s'épanouir et dans lequel elle peut grandir. Le fait de se soumettre à son mari n'enlève en rien à la féminité de la femme. Bien au contraire, cela enrichit sa féminité et permet à la femme un vrai épanouissement. Voilà ce que l'apôtre Paul demande aux épouses. Il est temps de se tourner maintenant vers les maris et de voir aussi ce que l'apôtre Paul leur demande. Il ne demande pas autre chose que de suivre l'exemple de Jésus. Il demande aux épouses de suivre l'exemple de Christ, il demande aux maris de suivre l'exemple de Christ. Paul demande aux maris d'aimer l'Église, d'aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. Et là encore, c'est l'exemple de Christ qui est placé devant nous. Comment Christ a aimé l'Église ? L'amour de Jésus pour l'Église est un amour concret. Il ne se résume pas à de belles paroles, de belles déclarations, à des déclarations romantiques, à de jolis poèmes. Même si cette semaine j'ai lu un poème d'un membre d'Église posté sur Facebook, un très bon poème d'ailleurs. Mais l'amour de Dieu l'amour de Jésus pour l'Église ne se limite pas. Ne se limite pas à de belles paroles, de jolis poèmes. Jésus a exprimé son amour à l'égard de l'Église en donnant sa vie pour son Église. Il le dit à ses disciples, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis. Il ne s'est pas contenté de donner sa vie pour sauver l'Église, mais il continue à prendre soin de son Église jusqu'à nos jours, jusqu'au jour de son retour, pour la purifier. Pour que cette Église soit glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et sans défaut. Non seulement il a accompli l'œuvre objective à la croix, mais il continue à œuvrer subjectivement dans la vie de chacun, dans la vie du sujet de chacun, par son esprit, pour nous transformer, nous façonner, en vue de lui ressembler et en vue de former cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni quoi que ce soit de semblable, une Église sainte, sans défaut. Quel rêve! Il faut être Dieu pour le rêver. Et heureusement, le Seigneur est Dieu. C'est pour ça qu'il a ce rêve. Donc, chers amis, chers maris, donnons-nous pleinement à nos épouses comme Christ s'est donné pour l'Église? Est-ce qu'on se donne à notre épouse comme Christ s'est donné à notre Église? Lorsque nous agissons, est-ce que Christ agit de la telle sorte à l'égard de son Église, c'est-à-dire à l'égard de nous? Si c'est vrai, il n'y a aucun problème, nous pouvons avancer. Si ce n'est pas vrai, nous devons réfléchir. Paul rappelle dans notre texte la parole qui institue le mariage et que nous avons aussi lu. L'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Quelles sont les choses qu'il va falloir abandonner? Quelles sont les choses qu'il va falloir quitter pour nous attacher réellement à notre épouse? Que devons-nous faire pour favoriser ce projet de devenir une seule chair? Est-ce que c'est toujours papa et maman qui décident sur votre couple, sur notre couple? Est-ce que parce que maman a dit quelque chose contre mon épouse que je dois me mettre à exécution? Et il faut couper le cordon ombilical. C'est la responsabilité du mari de veiller à ce que son couple forme cette nouvelle entité que Christ veut former. Ne rien laisser, ni personne. S'il faut quitter papa et maman encore, pas simplement en vivant avec eux, hein, parce que parfois on peut vivre même à des milliers de kilomètres et dépendre toujours de papa et maman. À chaque fois qu'il y a un souci, allô, comment faire, etc. Non, le Seigneur vous donne cette responsabilité, et il faut l'assumer, la gérer dans la discussion, bien sûr, avec votre épouse, avec nos épouses, et c'est ainsi que le couple se forme. Il y a des choses donc à quitter pour apprendre à s'attacher à son conjoint et après former vraiment une seule chair. Je dis cela parce que l'expérience pastorale m'a montré quand même que beaucoup de difficultés dans les couples, et je vous promets que ce n'est pas simplement dans les cultures communautaristes, donc je ne parle pas simplement dans d'autres pays, mais je parle ici, en France, à Paris, dans le contexte parisien. Parfois, il y a beaucoup de souffrance. C'est parce que les parents ont pris une place, à mon sens, que j'ai estimée un peu trop importante dans la vie du couple, et qu'ils devraient laisser leurs enfants former, vivre leur vie de couple. Et ça, dans nos milieux chrétiens, parfois, ce n'est pas facile. Je considère que c'est la responsabilité du mari, d'une manière spécifique, à un moment donné, de dire « il faut arrêter là, c'est la limite. Maintenant, c'est à nous, dans le cadre de notre couple, de fonder les choses, de réfléchir et d'avancer, toujours à l'écoute, bien sûr, des parents. » L'apôtre Paul ne place pas uniquement de grandes exigences, une grande exigence pour les épouses, mais aussi pour nous. Il nous demande de suivre l'exemple de Christ à cet égard. Tant que Christ inspire nos paroles, nos actes, je crois que nous n'avons pas du tout peur, nous n'avons pas à avoir peur sur notre autorité dans le couple, ni sur notre responsabilité. Ce sera quelque chose d'harmonieux, de beau. Tant que Christ inspire nos paroles, nos actes, nous pouvons être certains que notre épouse, nos épouses, seront les femmes les plus heureuses, les bienheureuses sur cette planète. Par contre, nous devons savoir très clairement, tant que nos paroles, nos actes ne sont pas inspirés de Christ, nous devons nous attendre aux difficultés. Et il ne faut pas après se poser la question, le pourquoi. Des difficultés, si elles ne sont pas prises en charge à temps, elles peuvent conduire à de grandes souffrances, de grandes tristesses, et nous connaissons, hélas, aussi des cas pareils. Les recommandations de l'apôtre Paul dans ce chapitre donc, sont claires aux conjoints, à l'un comme à l'autre. Il nous appelle à suivre l'exemple de notre Seigneur, pour la femme dans la soumission, pour l'homme dans l'amour, dans le don de soi. Suivre l'exemple de Christ est celui qui est demandé à tous les deux, et même au-delà du couple. C'est demandé à tous ceux qui veulent suivre le Seigneur Jésus. Ce n'est pas une option. Être chrétien, c'est marcher sur les traces de son Seigneur. Et en agissant ainsi, nous ne pouvons que aimer notre épouse, et l'épouse aimer aussi, parce que se soumettre est une forme aussi d'amour à l'égard de son épouse. Tel est donc le résumé que l'apôtre Paul donne au verset 33 de notre passage. Après ces relations au sein du couple, Paul maintenant donne des instructions au sujet des relations entre parents et enfants. Que dit-il ? Il s'adresse d'abord aux enfants. Il s'adresse aux enfants en leur demandant d'obéir aux parents. « Enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur, car cela est juste. » C'est le premier verset de chapitre 6. D'abord, je fais remarquer le fait que l'apôtre Paul parle aux enfants directement, s'adresse aux enfants ici dans son épître. Cela montre que les enfants participaient au culte, à l'écoute de cet épître au début. Et donc les enfants ne participaient pas simplement à la première partie de culte, des chants, etc., mais ils participaient aussi à la lecture de la parole de Dieu. Cela nous encourage, bien sûr, nous le faisons d'une autre manière, nos enfants sont pris en charge, et il y a des frères et sœurs qui leur enseignent la parole de Dieu, mais cela encourage aussi, me semble-t-il, l'idée des cultes de famille. D'ailleurs, il y a certains qui sont prévus, je crois, pour cette année, donc l'idée de cultes de famille où enfants, parents, tous ensemble, nous entendions ensemble la parole de Dieu. Pourquoi maintenant obéir aux parents ? Surtout à l'âge de l'adolescence, etc. Pourquoi obéir aux parents ? L'apôtre Paul dit clairement, cela est juste. Cela fait partie de l'ordre naturel des choses. L'apôtre Paul fait appel à la loi naturelle, si vous préférez. Dans toutes les cultures, dans toutes les civilisations, l'enfant a besoin d'être éduqué, accompagné, élevé pour devenir un adulte responsable et en bénédiction pour les autres, pour la société. Mais l'apôtre Paul ne se limite pas simplement à citer cet ordre naturel, mais aussi il donne un commandement de Dieu. Il cite le cinquième commandement qui invite l'enfant à obéir à ses parents. Et il mélange entre Exode 20, verset 12, et Deutéronome 5, verset 16. Ce commandement fait partie des 5 premiers commandements. Et vous savez que les rabbins ont toujours considéré les 5 premiers commandements comme des commandements qui sont là pour cadrer ou pour orienter notre relation avec Dieu. Et les 5 autres commandements pour les relations avec le prochain. Parfois, les chrétiens, les théologiens, en particulier évangéliques, rajoutent le 5e commandement aux cinq suivants. Donc, ils considèrent qu'il n'y a que les 4 premiers. Mais les rabbins, ils considèrent que le 5e, même s'ils parlent de la relation entre parents et enfants, considèrent que ce commandement est en lien avec la relation avec Dieu. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, les parents sont les représentants, en quelque sorte, de Dieu auprès des enfants. C'est eux qui exercent cette autorité que Dieu leur a confiée auprès des enfants. Et donc, leur obéir, c'est en effet, au-delà des parents, c'est obéir au Seigneur lui-même. Et l'apôtre Paul n'utilise pas, bien entendu, la menace pour encourager les enfants à obéir aux parents, mais au contraire, une promesse qu'il évoque. Il dit « afin que tu sois heureux et tu vives longtemps sur la terre ». Donc, le cadre, l'exhortation, c'est l'obéissance. Une question s'impose maintenant, faut-il obéir aux parents en tout ? Le passage parallèle de notre texte est dans Colossiens 3, il est vrai qu'il dit, il intègre l'expression « en tout », mais qui est à comprendre dans son contexte. Ici, l'apôtre Paul n'intègre pas cette expression « en tout ». Au contraire, il précise, il dit « selon le Seigneur ». Obéir aux parents selon le Seigneur. Si la règle générale est l'obéissance, il me semble qu'il y a des cas où l'enfant, surtout lorsqu'il s'approche un peu de la majorité, lorsqu'il commence à devenir adulte, enfin, il s'approche de la majorité, me semble, certains enfants peuvent, voire même dans certains cas, doivent désobéir à leurs parents. Lorsque j'ai accepté le Seigneur dans ma vie, j'étais mineur, j'étais pas loin de la majorité, j'avais 17 ans, enfin 16 à 17 ans, je m'en rappelle. Et mon père ne voulait pas, mes parents ne voulaient pas. Faut-il obéir aux parents ou à Dieu ? Et ben, pour la première fois, j'ai dû dire à mon père, pas question. Et j'ai désobéi, franchement. Mais ça, vous allez me dire, oui, c'est des parents musulmans. Que dire maintenant des parents chrétiens ? La règle ne change pas, selon le Seigneur. À chaque fois que les parents chrétiens ne se comportent pas selon le Seigneur, les enfants sont invités à désobéir aux parents. Je dis des enfants qui peuvent s'assumer après, hein, parce qu'après, s'il faut quitter la famille, etc., il faut quand même arriver à s'assurer. Sinon, soyez un petit peu quand même stratège, de bons stratèges, attendez que vous ayez quand même un peu de ressources, un peu de pistes. Je me rappelle d'un jeune, et d'un jeune de l'Église, je peux le dire, qui est venu me voir. Et il était vraiment en souffrance. Il devait avoir à peu près 16 ans. Parce que ses parents lui sortent toujours ce verset, au fond, obéissez aux parents. Et ce qu'il lui demandait, c'est vraiment de désobéir au Seigneur. Bon, j'ai essayé quand même de discuter un peu, de comprendre, et j'ai vu que c'était en effet ça, y compris dans l'échange avec les parents. Je vous dis très franchement, j'ai dû dire à l'enfant, personnellement, je considère que tu peux désobéir à tes parents. Et je suis prêt à payer le prix pour cela, s'il faut que je sois impliqué. Moi, je me rappelle, lorsque j'étais pas encore majeur, mes parents ont menacé celui qui m'a accompagné dans la foi, de l'attaquer en justice, etc. Et il avait considéré à l'époque qu'il devait continuer à me voir, à m'accompagner, à me dire ce que l'Évangile dit, quitte à le payer. Et d'ailleurs, il avait payé un peu. Je considère à partir d'un certain âge, j'attends pas la majorité, bien sûr, à partir de la majorité, les choses, la messe est dite, comme on dit. Donc, mais avant la majorité, je suis prêt à accompagner quelqu'un, un enfant qui s'approche de la majorité, qui décide de désobéir à ses parents parce que ses parents lui ont demandé de faire quelque chose de désobéissant à l'égard du Seigneur. Je prie, je le dis à mes enfants, et pourtant ils sont très petits. J'espère que le jour où je leur demanderai quelque chose qui va à l'encontre du Seigneur, ils vont me le dire très franchement, non. Je prie pour cela. Nous devons accepter autant que parents. Si nous demandons quelque chose pour notre propre égoïsme, et c'est par notre propre égoïsme, ou par, voilà, nous demandons quelque chose qui n'est pas selon le Seigneur, nous devons accepter, avoir le minimum d'humilité nécessaire pour dire oui à nos enfants. Être parent n'est pas simple, c'est le seul domaine qui ne s'apprend pas dans des livres. Vous pouvez lire tous les livres que vous voulez et arriver sur la réalité. Une situation va envoyer en l'air tous les bouquins et toutes les théories que vous avez acquises suite à ces lectures. Bien sûr, les lectures sont toujours bonnes, hein, elles nous aident toujours, bien entendu. Je ne suis pas en train de dire le contraire, mais cette amitié, c'est une responsabilité qui est très difficile à assumer, mais le Seigneur accorde ses grâces. D'où l'importance d'avoir de l'humilité. Une fois que j'ai dit cela, et de manière très claire, et je sais que j'ai pas mal de parents devant moi, j'aimerais aussi poser maintenant une autre question de l'autre côté, de dire est-ce que dans notre société, on ne se débarrasse pas un peu trop vite aussi des parents ? C'est vrai que parfois c'est nécessaire, parce que nous n'avons pas les moyens, ni les compétences, et nous faisons appel à des maisons spécialisées, médicalisées, etc., pour accompagner nos parents. Mais parfois, nous le faisons un peu trop vite, et peut-être pour des raisons aussi qui ne sont pas aussi nobles que cela, et que peut-être cette parole de l'apôtre Paul, finalement, s'adresse davantage à des parents adultes, à des enfants adultes qui ont leurs parents un peu plus âgés, pourraient s'adresser en tout cas à ces enfants, et pas simplement aux enfants en bas âge qui ont besoin du conseil, de l'éducation et des soins de leurs parents. Il nous faut quand même réfléchir à cela. Après les enfants, l'apôtre Paul s'adresse à présent aux parents et il demande deux choses. La première, ne pas hériter nos enfants. Nous sommes invités à les respecter, respecter nos enfants dans leur, ce qu'ils ont de spécifique, de leur particularité, et ce, dès leur jeune, dès leur tendre enfance. Chaque enfant est unique, mérite d'être respecté dans sa spécificité. Ne pas essayer de faire de nos enfants notre double, ou les pousser à réussir là où nous avons échoué. Donc nos enfants ne sont pas là pour revivre notre vie ou pour rectifier toutes nos erreurs. Nos enfants sont là pour vivre leur vie. Ils ne nous appartiennent pas. Ils ne sont pas la propriété des parents. Jamais dans la conception biblique. Un enfant, quand il arrivera à majorité, il est sous la responsabilité des parents qui vont l'accompagner. Une fois arrivé à la majorité, c'est à lui de prendre la direction de sa vie, espérant sous la direction du Seigneur, mais il est responsable de sa vie. La seconde chose que l'apôtre Paul nous demande est de les élever en leur donnant une éducation et des avertissements selon le Seigneur. Le verbe qui est utilisé pour élever, en fait, c'est un verbe qui veut dire littéralement nourrir, en les nourrissant, en les alimentant selon le Seigneur. L'éducation que nous sommes invités à donner à nos enfants est d'une certaine manière une nourriture qui va leur permettre de grandir, de se développer, d'être bien équipés pour que lorsqu'ils sont devenus majeurs, ils puissent assumer aussi leur rôle dans l'Église comme dans la cité, là où le Seigneur les place. Nous ne pouvons pas démissionner de ce rôle de parent. Nous avons demandé au Seigneur des enfants, le Seigneur nous confie des enfants. C'est un rôle, c'est une responsabilité exigeante, mais nous devons demander au Seigneur ses grâces, ses ressources pour assumer cette responsabilité de la meilleure manière qui soit. Mais nous ne pouvons pas dire c'est l'école qui va éduquer mes enfants. Pour l'instruction religieuse, ce n'est pas l'Église qui va éduquer vos enfants. Bien sûr, l'Église, il y a des programmes, et en particulier dans notre Église, bien réfléchis, pour donner des bases. Mais cela n'enlève en rien, cela n'excuse en rien le fait que les enfants ne reçoivent pas, ne lisent pas la parole de Dieu avec leurs parents à la maison. J'aimerais nous encourager, vous encourager à avoir des cultes de famille, au moins une fois par semaine. Autrefois, c'était tous les jours, mais au moins une fois par semaine, où vous pouvez lire, bien sûr, d'une manière adaptée, mais la parole de Dieu avec les enfants et prier ensemble. Mais si vous ne le faites pas, comment voulez-vous que les enfants, demain, pourront eux-mêmes lire la Bible avec leurs enfants ou... Nous devons leur donner un exemple. La transmission de la foi est d'abord une affaire de famille. C'est ce qui ressort dans le Deutéronome. Bien sûr, l'Église prend sa part de responsabilité, et franchement, notre Église, elle le fait bien. Mais l'école biblique... L'école de dimanche, les ateliers bibliques, pardon. Les ateliers bibliques ne pourront jamais remplacer notre culte personnel, notre responsabilité de parents à l'égard de nos enfants, pour les élever selon le Seigneur. Dieu merci, nous ne sommes pas seuls face à de telles responsabilités. Vous savez, c'est des belles responsabilités. Être conjoint, être parent, sont de belles responsabilités. Mais ce sont des responsabilités qui impliquent, qui sont exigeantes, qui impliquent un vrai sens des responsabilités. Et Dieu merci, nous ne sommes pas seuls. Il y a l'Esprit de Dieu qui est là pour nous accompagner, la parole de Dieu qui est là. Et il y a l'Église, les frères et sœurs, cette nouvelle communauté que Dieu forme autour de son Fils, pour nous accompagner, pour nous aider là où nous avons défailli. Et c'est aussi vrai pour les enfants. Parfois, l'Église, des figures de l'Église, peuvent jouer aussi le rôle d'un père défaillant ou d'une mère défaillante. Et on peut trouver cela aussi, ces ressources dans l'Église. Appartenir à l'Église implique de nouvelles relations, des nouvelles relations fondées sur l'amour de Dieu, l'amour du prochain, un commandement placé au cœur de l'Évangile par le Seigneur lui-même. Des relations nouvelles au sein de l'Église, mais aussi au sein de la famille, car c'est dans la famille, c'est dans nos relations en famille que cette réalité nouvelle s'incarne, s'exprime concrètement. C'est dans le couple que cette réalité, cette nouveauté de relation s'exprime et se vit. L'Église commence chez soi, dans son couple, à la maison, avec ses enfants, et après, bien entendu, développer une fois des relations harmonieuses, des relations nouvelles sont nourries, ces relations aussi se développent au sein de la communauté. C'est ce que l'apôtre Paul aborde ici, et il va encore plus loin en nous invitant d'avoir aussi le même esprit dans nos relations, dans notre milieu professionnel, qu'on soit employé et qu'on soit employeur. Des relations nouvelles au sein de la famille de Dieu, dans cette humanité à laquelle nous appartenons, nouvelle, fondée sur Christ, fondée sur son amour, manifestée d'une manière extrême à la croix. Amen.